Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute.
Nous aurons deux lectures en vue de la prédication. D'abord dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, presque à la fin, chapitre 20, les versets 10 à 15. Apocalypse, chapitre 20, les versets 10 à 15. Apocalypse 20, verset 10. Le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis. Devant sa face s'enfuirent la terre et le ciel, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de la vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres selon leurs œuvres. La mer donna les morts qui s'y trouvaient. La mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient, et ils furent jugés, chacun selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Et puis, une lecture dans l'Évangile, celui de Matthieu, au chapitre 25, les versets 31 à 46. Matthieu, chapitre 25, 31 à 46. Matthieu 25, 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli, nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi ?» Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. Nu et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront, eux aussi, « Seigneur, quand t'avons-nous vu, ayant faim ou soif, étranger ou nu ou malade ou en prison, et t'avons-nous pas rendu service ?» Alors il leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Voilà les lectures. Et merci à Marc de prendre soin de nous en s'étant préparé pour nous prêcher l'Écriture, la parole de Dieu. Merci beaucoup, Marc, de céder volontiers la place.
Bonjour à ceux que je n'ai pas encore vus. Je vous donne le titre en attendant. L'enfer, la croix et la gloire de Dieu. Ça résume en fait les trois points qu'on va suivre dans la prédication. Mais avant de commencer, c'est la troisième prédication de la série qu'on a entamée. Qu'est-ce qui vous revient en tête des prédications précédentes ? La gloire de la croix. La gloire de la croix. Amen. Bon, s'il n'y a pas plein de choses, c'est signe que vous êtes bien nourris. Donc c'est bon signe qu'il y a beaucoup. Cette prédication, donc, elle fait suite aux deux dernières, forcément, qui étaient en vue d'encourager les chrétiens qui traversent des phases de doute. Donc, d'émerveiller à nouveau les chrétiens qui ont la grâce de ne pas traverser des phases de doute et d'encourager ceux qui sont en cheminement, de leur manifester combien Dieu est bon et est la réponse à tout ce qu'on a besoin ici-bas. Et comment est-ce qu'on le faisait ? Eh bien, en cherchant à glorifier Dieu à nos yeux, en méditant sur sa gloire qui nous révèle sa grâce et sa miséricorde. Dans la première prédication, on avait vu que Moïse, en Exode 33-34, avait demandé à Dieu « Montre-moi ta gloire ». Et on avait été étonné de la réponse de Dieu. « Je ferai passer devant ta face toute ma bonté ». C'est généralement pas la conception de la gloire qu'on a. Et quand Dieu lui a réellement encore manifesté sa gloire, le texte nous rapporte que Dieu proclamait « Éternel, éternel, Dieu compatissant ». Qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité. Quelle révélation inattendue de découvrir que la gloire de Dieu n'est pas une chose écrasante, lointaine, mais qu'elle est bienveillance, patience, fidélité et justice. Plus loin, on a découvert aux côtés d'Ézéchiel que la gloire de Dieu est lumineuse, qu'elle n'est pas quelque chose d'écrasant, mais que c'est une lumière qui se répand, qui est généreuse. Elle vient éclairer les ténèbres spirituelles de ce monde, ainsi que les ténèbres de nos cœurs. Puis toujours aux côtés d'Ézéchiel, on avait peut-être été surpris de découvrir que dans la révélation de la gloire qui lui était manifestée, il y avait une forme humaine qui était présente dans cette révélation. Et c'est ce qui nous avait amené à Christ. Christ venu sur terre, qui a pris une forme humaine, un corps comme le nôtre, et qui est la révélation de la gloire du Père. On avait vu que Jésus a lui-même mentionné un événement qui allait particulièrement manifester sa gloire, un temps particulier où il allait être glorifié. C'était celui de la crucifixion, là où il s'est retrouvé nu, à l'agonie, versant son sang, moqué des pécheurs, et prenant sur lui notre châtiment. Et Jésus lui-même, ayant exprimé que ce temps à la croix allait être le temps qui allait le glorifier, manifester sa gloire, c'est ce qui avait fait que dans la deuxième prédication, on avait pris du temps pour plus approfondir le temps de la passion, ce temps qui commence dans le jardin de Gethsémané, par les souffrances de Christ, son angoisse, jusqu'à sa mise en tombeau. Voilà ce qu'on a vu dans les deux premières prédications. Et les souffrances que Jésus a accepté de vivre pour nous manifestent la grâce et la miséricorde qui fait partie de la gloire de Dieu. Avec cette prédication, on reste à la croix. Mais au lieu de se concentrer sur les souffrances que Jésus a accepté de vivre, les souffrances physiques qu'on a vues pendant la Passion, on va s'intéresser à ce qui s'est déroulé spirituellement lorsque Jésus était sur la croix. La prédication, vous l'avez compris avec le titre, elle va être découpée en trois parties. Dans ma première partie, on va se pencher sur ce qu'est l'enfer. Alors, drôle d'idée, vous allez peut-être me dire, si tu as comme but d'encourager les chrétiens, de faire un tour du côté de l'enfer. Mais je crois qu'on a besoin de se rappeler de cette réalité de l'enfer, que c'est ce qu'on mérite, afin d'être émerveillé à nouveau de l'œuvre de Christ à la croix. Et c'est pour ça qu'on passe là, pour bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé à la croix. Pour qu'on puisse comprendre cette œuvre substitutive de Jésus à la croix. Et si ce mot substitutive vous dit rien, ben ça tombe bien parce que la mort substitutive de Jésus à la croix, ce sera notre deuxième point. Et puis notre troisième point, ce sera le lien finalement avec la gloire de Dieu, le lien de tout ça avec la gloire de Dieu. Donc premier point, jugement et enfer. Deuxième point, la mort substitutive de Jésus à la croix. Et troisième point, le lien avec la gloire de Dieu. Donc le premier point, l'enfer. Et je vais simplement brièvement relire le texte d'Apocalypse, déjà pour qu'on l'ait bien en tête, qui a été lu par Roland. « Le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis. Devant sa face s'enfuirent la terre et le ciel, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. La mort donna les morts qui s'y trouvaient, la mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient, et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu, c'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Alors déjà, simplement, qu'est-ce qui ressort, quelques points de ce passage ? Premièrement, on voit que le diable est jeté dans l'étang de feu et de soufre, là où se trouvent déjà la bête et le faux prophète. On voit aussi dans ce passage que c'est un lieu où les personnes sont tourmentées jour et nuit et au siècle des siècles. Puis vient le grand trône blanc et celui qui est assis. C'est là que débute le jugement. Avant que débute ce jugement, on voit que la terre et le ciel s'enfuient. Il y a les livres qui sont ouverts. C'est ceux dans lesquels sont inscrits les œuvres de chacun. Et il y a aussi le livre, c'est le livre de vie. Les morts sont tous présents, les grands comme les petits. Chacun jugé selon ses œuvres, selon ce qui est noté dans le livre, dans les livres qui sont pluriels. Pour finir, tous ceux qui ne sont pas trouvés dans le livre de vie sont jetés dans l'étang de feu, là où sont déjà le diable, la bête et le faux prophète. Et maintenant, simplement encore, le passage de Matthieu, où on va chercher à souligner les différents points qui ressortent de ce passage. Mais avant de rentrer dans le fait de souligner ce qui ressort de Matthieu, parce que vous l'avez compris, ces deux passages nous parlent d'un même événement. mais il nous apporte des éléments qui viennent compléter notre compréhension de l'un et de l'autre passage. Mais avant de rentrer dans les événements, dans les éléments peut-être que nous permettent Matthieu 25 encore de comprendre, j'aimerais éclaircir un point. Ce passage pourrait nous donner l'impression qu'en fait, les gens sont sauvés par leurs œuvres. Mais ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas ce que ce passage de Matthieu 25 nous enseigne. Et j'aimerais souligner deux éléments. Le premier, comment est-ce que je sais que ces gens-là ne sont pas sauvés par la foi ? Eh bien, déjà, ne sont pas sauvés par leurs œuvres, pardon. Déjà, c'est l'analogie de la foi, d'où mon lapsus. L'analogie de la foi qui est ce principe où on se dit, OK, est-ce qu'un autre passage dans la Bible me parle de ce même passage, me parle de ce même principe et qu'est-ce qu'il m'enseigne ? Eh bien, ici, c'est le passage de l'Apocalypse qui fait écho et qui nous montre clairement que les gens sont jugés sur leurs œuvres, mais que ce qui va faire que certains ne vont pas en enfer, dans l'étang de feu, c'est le fait que leur nom est inscrit dans le livre de vie. C'est ça qui distingue. Et le deuxième argument vient de la façon dont Jésus explique cette parabole. La séparation des uns à droite et des autres à gauche ne se fait pas du tout en fonction des œuvres de chacun. La séparation à gauche et à droite, selon le verset 31, se fait sur la base de la nature de chacun. On a les brebis qui sont placées à droite, les brebis qui ne sont pas de la même nature que les boucs. Et il y a les boucs qui sont placés à gauche, les boucs n'étant pas de la même nature que les brebis. Les bonnes œuvres que les brebis ont faites sont en raison de la nouvelle nature qu'elles ont et non pour recevoir cette nouvelle nature. Et même le royaume, il est dit dans ce texte que le royaume de Dieu leur a été préparé déjà dès avant la fondation du monde. Donc cette séparation a été en fonction de leur nature. Les brebis, si je pousse un peu plus loin, qui sont les personnes qui sont nées de nouveau, et les boucs, qui sont les personnes qui ne sont pas venues à Christ. Donc dans ce récit que Jésus a raconté et qui vient compléter ce récit de l'Apocalypse pour nous ce matin, il nous apporte quelques éclairages supplémentaires. Déjà, on apprend que le feu, à l'origine, était préparé pour le diable et ses anges. Aussi, ce passage nous permet de comprendre que quand en Apocalypse il est parlé du diable qui est jeté dans l'étang de feu, c'est bien le diable et ses anges, donc le diable et tous les démons qui y sont jetés. L'Apocalypse nous parle d'un grand trône blanc et d'une personne, de quelqu'un, qui est dessus. Mais on ne sait pas qui c'est dans l'Apocalypse. Mais ce passage au verset 31, qui nous a été lu par Roland, nous permet de savoir que c'est Jésus-Christ qui est le juge sur ce grand trône blanc. Aussi, il confirme l'affirmation dans l'Apocalypse que tous les êtres humains seront présents. L'Apocalypse disait les petits et les grands, et ce passage nous dit ceux de toutes les nations. Donc il n'y a pas une nation qui ne sera pas présente à cet événement. On y retrouve d'une manière plus concrète, mais restreinte, le jugement selon les œuvres inscrites dans les livres, ces livres pluriels de nos œuvres, et qui servent des personnes finalement qui... Je laisse tomber ça, pardon. Et on y voit que les uns vont au châtiment éternel, mais que les justes vont à la vie éternelle. Il y a donc une symétrie des deux situations. Les deux destinations sont éternelles. On va maintenant chercher à rentrer un peu plus dans ces passages et chercher à comprendre la substance qu'on peut retirer de ces deux passages, maintenant qu'on a clarifié les points clés de ces éléments. Ces passages nous décrivent donc un même moment, on l'a compris. C'est le moment prévu par notre Créateur. C'est ce jour que la Bible annonce comme le jugement dernier. Comme nous le montrent ces passages, un temps où les êtres humains seront tous jugés. Notre juge, Jésus-Christ, siégera sur un trône blanc, symbole de pureté, de victoire et de gloire. C'est un jugement spécifique pour les êtres humains. Le diable et ses anges ont déjà été jetés dans l'étang de feu avant que ça commence. Ce jugement ne les concerne pas. Et tous ceux qui auront placé leur confiance dans ces puissances célestes verront comme cela était vain, car elles leur seront pour eux-mêmes d'aucun secours. Membres de fausses religions, médiums, satanistes, guérisseurs, stars ayant pactisé avec le diable, membres de sociétés secrètes, en bref, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont entrés en contact avec les puissances célestes en dehors de Jésus-Christ et ont placé leur confiance en elles, sans s'en repentir, elles se verront délaissées et sans secours au moment où elles en auraient réellement le plus besoin. Ce passage nous enseigne encore que nous serons tous jugés, les grands et les petits, ceux qui seront encore vivants à ce moment-là et ceux qui seront morts avant l'arrivée de ce temps. Il n'y aura pas d'exception. Nous nous retrouverons tous devant le Créateur, quelle que soit la nation à laquelle on appartient. Mais le passage d'Apocalypse nous révèle un événement important qui précède encore ce jugement. Le ciel et la terre s'enfuient. Alors, qu'est-ce que cette affirmation peut bien nous apprendre ? Notre cœur humain a tendance à chercher un appui et un refuge dans les choses de ce monde, à placer notre confiance dans les biens de ce monde. Or, maison, armes, bunker, réputation, nombre de followers, garde-robe, téléphone, bijoux, vêtements de luxe, compte bancaire, voiture, apparence physique, performance personnelle, médaille, récompense, etc. Mais ce que ce passage nous permet de comprendre, c'est qu'au moment fixé par notre Créateur, nous serons tous jugés et il n'y aura rien d'autre que nous. Le ciel et la terre s'enfuiront. Aucun bunker, aucune armée, aucun système financier, rien pour nous venir au secours et se placer entre notre juge et nous. Quelles que soient les puissances célestes ou les biens terrestres en lesquels nous avons placé notre confiance, ils ne nous seront d'aucun secours. Le diable lui-même se jarrera jeté dans le lieu de tourment, comme on l'a vu, avant même que ça commence. Ce sera simplement moi et mon Créateur et mon Dieu, Jésus-Christ, Dieu et moi, sans aucun secours extérieur, aucune couverture ou protection, quelle qu'elle soit, Dieu et toi, sans secours extérieur. Tout ce qui pouvait nous sembler sûr, stable, solide, durable, se révélera comme un roseau cassé qui transperce la main lorsqu'on s'appuie dessus. Juste mon Créateur et mon juge et moi, nus et dépouillés de tout ce en quoi j'aurais pu placer ma confiance d'autre que Dieu lui-même. Et mis à nu jusque dans les événements de ma vie que personne n'a vu, mes pensées que personne n'a perçues, sauf Dieu. Comme nous le dit ce passage en Hébreux 4, 12, 13, elle juge, il parle de la parole, ici la parole avec un P majuscule, Christ, elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. C'est donc jusqu'aux pensées de nos cœurs qui seront dévoilées et utilisées dans notre jugement. L'apparence extérieure qu'on a toujours pu laisser voir aux autres ne sera d'aucun secours au moment du jugement. Dieu n'est pas dupe de cela, et c'est jusqu'aux sentiments et aux pensées de nos cœurs que nous serons jugés, car devant Dieu, rien n'est caché. Impossible de cacher nos mauvaises pensées à l'égard de Dieu, d'un collègue ou d'un autre humain. Impossible de cacher nos mauvais sentiments envers un frère ou une sœur. L'apparence extérieure de respectabilité qu'on aura pu donner aux autres ne nous sera d'aucun secours, car elle n'a jamais trompé Dieu. En résumé, voici trois catégories qui ne manqueront pas de nous faire défaut au jour du jugement si nous nous appuyons sur elles. Les puissances célestes qui ne sont pas le vrai Dieu. Qu'on les appelle Bouddha, l'univers infini, Satan, le moi divin, les faux Christ ou quoi que ce soit d'autre, le diable, ou quoi que ce soit d'autre que le diable a pu inventer comme mise en scène et comme fausse religion aux croyances. Ça nous sera d'aucun secours. L'univers et tout ce qu'il contient, que ce soit matériel, humain, nature, toutes ces choses nous seront d'aucun secours. Notre apparence extérieure, d'aucun secours également. Toutes ces choses seront loin de nous au moment du jugement et nous serons d'aucun secours. Dans ces deux passages dont on cherche à extraire l'enseignement, une autre chose ressort clairement. La destination qui nous attend sur la base des livres de nos œuvres, ces livres qui étaient pluriels. Il n'y a personne qui, sur la base de ces œuvres qui sont inscrites dans ces livres, qui échappe à l'étang de feu. C'est vrai, il y a ceux qui sont dans le livre de vie, le livre unique, qui n'y sont pas jetés. Et on y reviendra plus tard. Mais laissons-le de côté pour l'instant. On a besoin de comprendre que les livres qui contiennent nos œuvres de notre vie nous condamnent sans exception. Quelle est la condamnation de ce jugement ? Le texte nous rapporte que c'est l'étang de feu. Est-ce que c'est littéral ? Est-ce que c'est une image ? Personnellement, je ne saurais pas l'affirmer, mais je crois que ce n'est pas vraiment important. C'est ce qui est exprimé au travers de ça qui est important. Ça exprime un lieu de souffrance intense. Non seulement de souffrance intense, mais aussi sans pause, jour et nuit. Et non seulement jour et nuit sans pause, mais encore sans fin. Aussi difficile que ce soit à prêcher et à croire, c'est là l'enseignement de la Bible. Ce qu'on appelle l'enfer est un lieu de souffrance intense, sans répit, sans fin, au siècle des siècles, illustré ou littéralement révélé comme le feu. Alors, est-ce qu'il y aura différents niveaux de souffrance ? C'est possible. Certains passages peuvent le laisser penser, notamment avec la connaissance qu'on aura eue ou non de l'Évangile. Mais aucun passage ne laisse penser que l'étang de feu puisse être autre chose qu'un lieu de pleurs et de grincements de dents. C'est terrible de parler de ces réalités, mais c'est ce que la Bible nous annonce. C'est ce que Jésus a annoncé aussi. Et c'est ce que la Bible, qui est la parole de Dieu, nous révèle dans bien des endroits. Et on sait que Dieu est bon, qu'il est juste et bon, et que sa parole est ce qu'il a voulu nous révéler à nous, pécheurs. Aussi terrible que ce jugement soit à nos yeux, on doit aussi reconnaître que c'est un jugement qui est juste. Il se base sur nos œuvres, il n'est pas arbitraire. Il repose sur le jugement de celui dont le trône est blanc, sans péché, et dont le jugement est juste, comme le dit Romains 2,6, que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. C'est équitable. Ce n'est pas basé sur des éléments subjectifs dont on peut dire « oui, alors ça dépend du point de vue ». Non. C'est sur les éléments objectifs de notre vie inscrits dans les livres, à la lumière du bien et du mal, tels que Dieu nous le révèle dans sa parole et qui ne peuvent pas être mis en question, que nous serons jugés. En fait, c'est nous qui avons une mauvaise compréhension de la gravité du péché. Par exemple, si on réfléchit au péché d'Adam et Ève, avoir mangé un fruit, avoir mangé le fruit défendu, et qu'on pense aux conséquences que cela a entraînées, pensons aux horreurs qui se sont déroulées depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui dans le monde. Est-ce qu'on ne se demande pas parfois, est-ce que ce n'est pas un peu excessif les conséquences ? Alors si ce n'est pas ton cas, que Dieu soit béni de te donner une si juste compréhension de la gravité du péché. Pour les autres qui, comme moi, peuvent parfois avoir cette impression, j'aimerais nous dire que nous avons tort. Nous avons tort. On regarde la chose sous le mauvais angle. C'est un peu comme regarder le négatif d'une photo, où les couleurs, en quelque sorte, sont inversées. Lorsqu'on réfléchit ainsi, on se fait juge de cet événement et de ses conséquences. Alors que cet événement et ses conséquences ne nous est pas révélé pour éveiller notre jugement, mais pour éclairer notre jugement et qu'on puisse comprendre notre situation. En d'autres termes, quand on réfléchit en se disant « quand même, c'est juste une désobéissance », on se place, nous, en juge de Dieu. Alors qu'en fait, on devrait se faire enseigner par cet événement et on devrait plutôt réagir en disant « ah bon, le péché est si grave que ça ? Malheur à moi ! Qu'est-ce que je mérite, moi, qui ai accumulé une montagne de péchés, si un seul péché devant Dieu, le Dieu saint, est si grave ?» Oui, ce n'est pas nous les juges. Nous sommes ceux qui avons besoin d'être enseignés par Dieu au travers de sa parole. Cet événement nous montre combien le péché et ses conséquences sont graves, désastreuses et dévastatrices. La raison en est qu'il est une offense et une insulte au Dieu infini et infiniment saint. Et alors on comprend que la condamnation qui en découle est juste. Peut-être quelqu'un dira « Mais moi, j'ai jamais rien fait de péché grave. » Alors j'aimerais simplement rappeler ces paroles de Jésus qui nous dit que lorsque on convoite, par exemple, une femme par le regard, on a déjà commis un adultère. Lorsque on a de la haine pour un frère ou une sœur et qu'on lui dit « Raca », on a déjà commis un meurtre aux yeux de Dieu. Ce qui se passe dans notre cœur est déjà si grave que ça aux yeux de Dieu. Et bien sûr, le résumé du premier commandement, enfin le résumé du commandement le plus important, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et de toute... » Le dernier m'échappe. Mais cœur, merci, qui venait au début, c'est pour ça. Qui peut dire qu'il a aimé Dieu comme ça tous les jours de sa vie ? Alors on voit bien qu'on fait partie de ces personnes qui sont pécheurs et qui sont condamnés. À l'inverse, on voit combien Dieu est bon et patient avec les êtres humains, de ne pas nous faire subir instantanément les conséquences de notre péché. Il nous laisse le temps de nous repentir. Mais cette patience aura son terme. Le jugement arrive, comme on vient de le voir. Et les conséquences, ce sont les souffrances intenses, sans répit et sans fin. On arrive au deuxième point, la mort substitutive de Jésus à la croix. Mais ce passage nous montre aussi que tous ne vont pas à l'étang de feu, qui est aussi appelé la seconde mort. Comme on l'a vu, les gens sauvés et qui vont à la vie éternelle ne le sont pas en raison de leurs œuvres. Non, c'est ceux qui ont leur nom qui est inscrit dans leur livre, dans le livre de vie. Mais alors c'est quoi ce livre de vie ? Pour répondre à la question, j'aimerais vous donner une clé d'interprétation qui a été donnée une fois par un pasteur au sujet de l'Apocalypse et que j'ai trouvé très utile. Il disait « Si tu penses avoir trouvé dans l'Apocalypse un nouveau concept qui n'existe pas ailleurs dans la Bible, tu as fait fausse route, tu t'es trompé dans ton interprétation. » Ce qu'il voulait souligner par là, c'est que l'Apocalypse reprend et est l'aboutissement de concepts et d'enseignements que l'on retrouve ailleurs dans la Bible. Notre premier réflexe pour comprendre un passage de l'Apocalypse devrait toujours être « Où est-ce que je retrouve ce concept ailleurs dans la Bible et qu'est-ce qu'il m'enseigne à cet endroit-là » Et le concept « des livres » pluriel et « du livre » n'y font pas exception. Par exemple, on retrouve les livres pluriels dans Daniel 7, 10. Et c'est intéressant parce que c'est justement un contexte de jugement avec des juges qui s'asseyent et qui prennent ces livres-là. Ou alors le livre de vie qu'on retrouve en Daniel 12, 10. Mais ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, c'est eux qui nous intéressent actuellement. Et sur quelle base ? Finalement, la question sur quelle base est-ce que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie ne sont pas condamnés ? Pourquoi ceux-là ne sont pas condamnés ? Alors, on l'a vu, ce n'est pas en raison de leurs œuvres, parce que tous sont condamnés sur la base de ce qui est mis dans les petits livres. Alors, comment savoir ? Ben, il y a un passage dans Psaume, le psaume 69, les versets 28 à 29 qui vont nous éclairer. Le texte nous dit « Ajoute cette faute à leur faute et qu'ils n'aient pas accès à ta justice, qu'ils n'aient pas, que ces personnes-là n'aient pas accès à ta justice, qu'ils soient effacés du livre de vie. » Donc, ceux qui sont dans le livre de vie ont accès à la justice de Dieu et qu'ils ne soient pas inscrits avec les justes. Donc, pourquoi ce passage est intéressant ? Parce que on voit que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie sont appelés les justes. C'est intéressant. Mais on voit qu'ils ne le sont pas en raison de leur justice, puisqu'il est dit qu'ils n'aient pas accès à ta justice et qu'ils soient effacés du livre de vie. Donc, à l'inverse, ceux qui sont dans le livre de vie ont la justice, ont accès à la justice de Dieu. Des personnes qui sont au bénéfice de la justice de Dieu. C'est ce qui va nous mettre sur la piste de la mort substitutive de Christ. Alors déjà, c'est quoi ce mot « substitution » ? La mort substitutive de Christ, c'est quoi le mot « substitution » ? Mais imaginez que vous êtes condamné à aller en prison pour le reste de votre vie. Arrive une personne, par exemple le juge qui vous a condamné, et qui dit « J'ai pitié de toi. C'est moi qui vais aller en prison à ta place. » Cette personne se substitue à vous. Elle va en prison et vous êtes libre. Elle souffre à votre place la souffrance que vous auriez dû souffrir. Un synonyme serait « remplacement ». Le juge a pris votre place, vous a remplacé à la condamnation que vous deviez subir. Voilà le mot « substitution ». Donc la mort substitutive de Jésus à la croix, c'est sa mort à la place de ses élus. C'est Jésus qui devient péché et nous qui sommes revêtus de sa justice. Alors vous me direz peut-être, Marc, il nous faut une preuve biblique. Amen. Bon réflexe et merci pour la question. Elle est importante. Alors on peut aller par exemple en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, où il nous est dit « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait, donc Dieu, l'a fait devenir péché pour nous. » Donc dans le contexte, c'est Jésus-Christ, hein, celui qui n'a pas connu le péché, Jésus-Christ. « Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » On voit bien ici la substitution. Il y a d'un côté quelqu'un qui n'a jamais commis de péché, c'est Jésus, et qui est juste. D'un autre, il y a nous, qui sommes pécheurs et dépourvus de justice. Et voilà que celui qui est juste prend la place du pécheur, et que le pécheur reçoit la justice de celui qui est juste. C'est la substitution. Jésus nous a remplacés à notre croix, il a pris notre châtiment à notre place. Un autre passage pourrait être Galates 3,13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois ». Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il nous a rachetés, un paiement a été fait pour nous, afin qu'on ne soit plus sous la malédiction de la loi qui nous condamne en raison de notre péché. Et un passage plus connu qui se trouve dans Ésaïe 53, les versets 4 à 6, « Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. » Après, on peut peut-être se poser une question. Maintenant qu'on a compris que pour chacun d'entre nous, le châtiment mérité est la souffrance éternelle sans répit et sans fin, comment un homme, en 3 heures de ténèbres à la croix, peut-il payer pour le châtiment de tous ses élus ? Ce châtiment étant éternel, Comment donc peut-il, en 3 heures, ne serait-ce que payer pour une personne ? C'est là qu'on voit que seul Dieu pouvait payer pour nous. On va prendre une image. On verra si elle vous parle. Imaginons que vous avez une voiture électrique. Elles ont maintenant une capacité de se charger très rapidement. Pour que cette charge intensive soit possible, il faut que depuis la centrale électrique jusqu'à la batterie de votre voiture, tous les câbles soient suffisamment grands pour supporter une telle intensité de charge. Mettons qu'un jour, vous arrivez à une borne de charge et que le câble ait été arraché. Le jour d'avant, vous aviez bricolé une petite lampe de poche et il vous reste quelques fils de cette lampe de poche dans la poche, puis vous dites « qu'à cela ne tienne, je vais brancher ces fils à la borne et relier ma batterie avec ces fils-là ». Vous l'avez certainement compris, ces fils vont instantanément brûler sans même que un seul pourcentage de votre batterie ait pu se charger. C'est pourquoi il est important de comprendre que Jésus devait absolument être pleinement homme pour pouvoir nous représenter devant Dieu, mais aussi pleinement Dieu pour pouvoir prendre sur lui notre châtiment. Seul le Dieu infini peut prendre sur lui le châtiment éternel de ses élus. C'est d'ailleurs pour ça que le Jésus des témoins de Jéhovah ne peut pas sauver, parce qu'il n'est pas Dieu, il n'en aurait simplement pas eu cette capacité. Il aurait été incapable d'accomplir cette œuvre de substitution, de prendre sur lui l'enfer éternel de tous les élus de Dieu. Jésus-Christ étant le Dieu infini et tout-puissant, il était le seul, si vous me passez la comparaison, dont le câble était d'un diamètre infiniment suffisant pour supporter l'intensité du châtiment de tous les élus en 3 heures de temps à la croix. Et avec tout ça, on en arrive au troisième point, qui sera aussi le point par lequel on conclura. Avec le premier point, j'espère qu'on a compris maintenant que notre péché et ses conséquences sont tellement graves qu'il est vain d'imaginer qu'on puisse, nous-mêmes, d'une manière ou d'une autre, le compenser par nos bonnes œuvres. Il nous faut donc désespérer de nos capacités. Personne n'est en mesure de se sauver par ses propres œuvres. Non seulement la conséquence d'un seul péché est trop grave, mais encore la Bible nous dit en Ésaïe 64:5 que même nos actes de justice sont comme un vêtement pollué devant Dieu. Même nos bonnes œuvres devant Dieu sont polluées par notre péché et n'ont aucun poids dans la balance de justice, sinon du mauvais côté qui nous condamne. Avec le deuxième chapitre, on a compris qu'il y a un espoir. Jésus est venu, a vécu une vie parfaite et est mort à la croix à la place des élus de Dieu. Cette mort substitutive dans laquelle il a pris sur lui le péché et ses conséquences éternelles est pleinement suffisante pour réconcilier avec Dieu pour l'éternité quiconque place sa confiance en lui pour le salut. Alors, quel est le lien avec la gloire de Dieu ? On a vu dans les précédents messages que la gloire de Dieu est une chose étonnante, si éloignée de notre conception de la gloire. La gloire de Dieu est pleine de grâce et de miséricorde. Et quelle grâce et quelle miséricorde il fallait pour quitter les cieux, pour venir vivre au milieu des pécheurs, subir leurs moqueries, leurs outrages, et recevoir de la main du Père bien-aimé le châtiment de l'enfer éternel de tous ses élus. Cette souffrance de l'étang de feu, jour et nuit, et pour l'éternité, a été portée par Jésus sur la croix lorsqu'il a été fait pécheur pour ses élus. Si tu es en Christ, voilà ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Il a porté ton enfer. Il a bu ta coupe de souffrance jusqu'à la dernière goutte. Et quelle sécurité ça nous amène. Si tu n'es pas en Christ, voilà ce matin ce qui t'est offert, une remise complète de ta dette impayable envers Dieu. cette gloire pleine de bonté et de miséricorde que Dieu a révélée à Moïse n'était pas que des paroles, mais c'est des actes. Et j'aimerais terminer cette prédication par trois applications. Trois applications pour ceux qui sont en Christ et trois applications pour ceux qui sont en cheminement. Si tu es en Christ, première application, j'espère qu'on a pu comprendre et fortifier notre compréhension que notre salut ne dépend pas de ce qui est noté dans le livre de nos œuvres, mais uniquement de l'inscription de notre nom dans le livre de vie. Alors cessons de chercher notre sécurité dans ce qu'on pense être nos performances morales ou spirituelles. La certitude de notre salut repose sur l'œuvre achevée de Jésus-Christ en notre faveur. Nous pouvons vivre sans peur du jugement, parce qu'alors le diable et ses anges seront jetés loin, alors que le diable et ses anges seront jetés loin dans l'étang de feu, que le ciel et la terre s'enfuiront, que nos pensées les plus intimes seront comme mises à nu devant notre Créateur. Le Christ Jésus, notre juge et notre avocat, ne s'enfuira pas. Il nous couvrira de sa justice. Et nous serons déclarés saints en raison de sa justice et de l'expiation de notre péché qu'il a accompli. Deuxième application, nous sommes invités à méditer ce qui a été accompli à la croix, en réalisant que Jésus a porté l'équivalent de l'enfer, la seconde mort, la séparation d'avec Dieu, et que la croix n'est pas un échec, mais la révélation suprême de la gloire de Dieu. Cette compréhension transforme la manière dont nous allons aborder et traverser les épreuves. Si Dieu a choisi de boire cette coupe pour nous, ce n'est pas pour être désormais un Seigneur lointain. Comme il a souffert, il est aussi présent avec nous dans nos souffrances. C'est une garantie. Troisième application. Puisque les bonnes œuvres sont le fruit d'une nouvelle nature, les boucs étant devenus des brebis. En tant que chrétiens, nous sommes désormais appelés à marcher dans une vie, dans une nouvelle vie, une vie de piété et de service de Dieu qui lui soit dédiée. Une vie aussi au service de notre prochain, de nos frères et sœurs, et des non-croyants, reflétant auprès d'eux la miséricorde, la patience, la compassion, et l'amour de Dieu, parce que Dieu est ainsi avec nous. Mes frères et sœurs, le jugement qui a été dépeint à nos yeux ce matin arrive, et c'est bien une telle souffrance qui attend les perdus. Nous sommes ceux qui connaissons le remède. De nos paroles peuvent dépendre leur salut. Nous connaissons l'antidote. Ne la gardons pas pour nous et que Dieu nous soutienne. Et à présent, trois applications pour ceux qui sont encore en cheminement. Devant nos yeux et dans notre propre cœur s'étalent encore aujourd'hui les conséquences de ce seul péché d'Adam et Ève et de tous les péchés qui ont suivi, nous montrant la gravité d'un seul péché. Ne faisons pas l'erreur d'en regarder le négatif de la photo, mais laissons-nous enseigner par cette réalité. Deuxième implication, il est important de comprendre que le problème n'est pas que Dieu serait injuste, mais la réalité objective de notre péché devant Dieu. Se juger soi-même ou minimiser notre péché n'est pas la solution. Même nos actes les meilleurs reste comme un vêtement souillé devant Dieu. Troisième application, rappelons-nous aussi la vanité de tous les refuges imaginables. Qu'il s'agisse de puissances spirituelles, elles seront dans l'étang de feu avant même que le jugement ait débuté. Les biens terrestres, argent, réputation, santé, ils s'enfuiront au loin avant même que le jugement ait débuté. La respectabilité extérieure, elle sera retirée et ce qu'il y a réellement dans nos cœurs sera dévoilé. Le seul refuge qui se trouve Le seul refuge se trouve dans le fait de placer sa confiance dès maintenant dans le divin juge siégeant sur le grand trône blanc, Jésus-Christ. Écoutez encore cet appel qui nous vient de la parole en 2 Corinthiens 5, 21. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Il s'agit de cesser de compter sur ses propres œuvres qui conduisent inévitablement à l'étang de feu sur la base des livres et d'aller à Christ en reconnaissant son incapacité de se sauver et sa volonté à lui de sauver de misérables pécheurs comme nous. Je vais prier. Seigneur, tu utilises des créatures bien faibles et encore pécheresses, mais sauvées par grâce, pour délivrer des réalités si importantes, essentielles, Seigneur, sur lesquelles se joue notre avenir éternel. Et Seigneur, tu connais nos faiblesses. Et tu sais que c'est ta parole qu'on veut prêcher. Parce que jamais tu n'as promis d'honorer l'éloquence d'un prédicateur. Mais tu as promis d'honorer ta parole. Alors Seigneur, c'est sur cette œuvre qu'on veut compter pour que ta parole fasse son œuvre dans nos cœurs. Sur ces réalités si importantes. Seigneur, merci de tout nous donner par grâce. Merci pour cette réconciliation que tu nous donnes et le fait de nous faire échapper à un jugement si grand, bien qu'il soit juste, mais qui peut nous paraître si terrible, et il l'est, mais on sait qu'il est juste. Merci pour Jésus qui a tout payé pour nous. Seigneur, que ton œuvre continue dans nos cœurs encore ce matin et dans la semaine à venir. Au nom de Jésus, on te prie. Amen. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.